Que Dieu vous bénisse. Le mercredi, le frère Franck avait apporté, enfin on avait retransmis une des prédications du frère Franck sur les 10 commandements. Et ça a été traduit en... Le frère Jonathan a fait ça en italien, mais moi je peux aussi traduire en français. Je peux traduire en français sans problème. Comme ça, on pourra l'écouter en français, ou relire en français. Donc, on ne sait pas si ça existe en français. Donc, il n'a pas la date, mais on peut la trouver. On peut la trouver. Voilà, ici, j'ai une date. Donc, Frère Genton avait écrit, c'était en mai 2001. Ça, c'était imprimé en 2001, voilà. Mais je pense que c'était en 1996. 96. Et j'aimerais dire quelque chose en rapport avec ceci, parce qu'on avait reçu, en fait, une petite parenthèse, on a reçu quelque chose sur WhatsApp, un petit message de frères francophones, et apparemment ça n'a pas été bien compris. Mais si on est tous ici, on peut commencer. Mais je vais passer d'abord quelques minutes pour 5-10 minutes maximum sur ceci, et puis on continue, on ira de l'avant, parce que disons que c'est important ce qui a été dit. Seulement que parfois on comprend d'une certaine manière, et parfois on interprète des choses. Donc c'est mieux de mettre les choses en place, de mettre les choses, dire les choses correctement comme elles sont. Voilà. Voilà. Donc les frères vont se mettre sur le site. Ils doivent encore se loguer. Il y en a qui doivent encore se loguer. Il y a encore la sœur Deborah aussi. Le frère Salvatore est là, pardon, il est là, le frère, Dieu le bénisse. Voilà, sœur Déborah, il reste encore la sœur Déborah. Voilà. Voilà, on attend encore quelques minutes. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, on attend encore quelques minutes que les derniers arrivent. La traduction est bonne. Voilà, on peut aller de l'avant. Donc, le frère Salvatore demande une prière pour lui avant qu'on commence. Parce qu'il est un peu malade. Et aussi, son moral est bas. Il est bas de moral, dans le moral. Nous allons incliner nos têtes. Et nous allons nous recueillir et croire vraiment que le Seigneur nous écoute. Et avoir la certitude de la foi dans nos cœurs. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous commençons par te dire merci, c'est la seule parole, c'est le seul mot qui est facile à dire. Parce que tu nous as fait vraiment grâce. Tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as fait voir la lumière dans toutes ces ténèbres qui nous entourent. Tu es ce point fixe, clair et net où la barque ne peut pas se perdre, où nos âmes ne peuvent pas se perdre. Mais au contraire, Seigneur, tu nous feras arriver au lieu sûr, au port, là où toi, tu as dit que tu nous porteras. Quand tu as dit que la place sera prête. Et là, tu vas nous appeler à toi. Merci, Seigneur. Bénis encore cette soirée. Bénis nos cœurs. Nous avons beaucoup besoin de toi, Seigneur. Pas seulement Salvatore, mais nous tous, ton Église partout dans le monde. Nous sommes en train de traverser des moments très difficiles, même physiquement, et peut-être encore même moralement. Mais sûrement que toi, tu vas rester avec nous dans ta fidélité, dans ton amour, tu restes avec ta parole. Voilà pourquoi nous accrochons à toi. Et nous croyons qu'encore ce soir, tu vas parler avec nous. Tu vas nous fortifier dans la foi. Et tu vas fortifier nos cœurs et tu nous feras aller de l'avant. Même si tout tombe, tout s'écroule autour de nous, mais toi, tu restes fidèle. Le Dieu vivant qui continue l'œuvre au milieu de ses enfants. Merci, Seigneur, de nous avoir appelés, de nous avoir donné la foi nécessaire pour pouvoir détruire les œuvres du diable et continuer à lutter. La solitude, c'est ça, c'est pas bien, mais tu es avec nous tous les jours, dans ta promesse, dans tes promesses, dans ta parole, dans la fidélité, dans ton amour, toutes choses. Quand on se souvient de toi, on se rappelle de toi et de tes promesses, toi, tu réjouis nos cœurs. Tu nous mets dans un refuge et tu nous emmènes dans ton ciel d'amour, là où on peut rester tranquille. Merci, Seigneur, de bénir cette soirée, ta parole, ce que nous allons dire, que cela puisse rester scellé dans nos cœurs et nous fortifier toujours plus. Oui, Seigneur, tu es vraiment en train de revenir et nous croyons de tout notre cœur que tu ne viendras pas avant que l'épouse soit préparée parfaitement comme tu l'as promis. Et tu vas te préparer, te présenter une épouse sans tache, sans ride, sans tache irrépréhensible. Merci, Seigneur, à toi. Gloire et honneur. Continue ton œuvre de guérison parmi les cœurs dans les corps et parmi les croyants qui te cherchent et qui croient de tout leur cœur que tu restes fidèle. Continue ton œuvre de guérison, tant spirituelle que physique ou matérielle. À toi l'adoration, honneur et louange, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, elle reste vraiment fidèle. Je veux simplement dire ceci. Vous savez, les années, les siècles, les générations passées avant nous, et petit à petit, ouais, qu'elles passaient, les choses passaient, les choses se changeaient. Mais Dieu n'a jamais changé sa manière de penser, sa manière d'avoir donné à son peuple le moyen de pouvoir vivre selon la parole de Dieu. Je crois que la sœur Jeanne est là, la sœur Jeanne de Côte d'Ivoire, mais il faudra qu'un administrateur éteigne le micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc je voulais dire que concernant le septième commandement, disons les dix commandements, le frère Franck a répondu à un journaliste, mais il n'a pas été dans la profondeur pour expliquer tous les dix commandements dans la profondeur. Il a survolé rapidement, juste ça. Et il pourrait, bien sûr, y avoir des choses encore en suspens. Donc c'est mieux de dire les choses bien précises. Surtout le septième commandement, ne commettez pas d'adultère. Donc j'aimerais lire avec vous. Donc c'est dans la brochure qui a été éditée en italien par le frère Genton, retranscrit. Dieu donc Dieu voilà, on va lire la retranscription de la prédication de Frère Franck sur le septième commandement. Dieu a mis le mariage sous une protection spéciale, ça c'est important, et l'adultère peut être commis seulement de deux façons dans la pratique, dans l'acte, et celui qui désire la femme d'un autre dans son cœur. Voilà, ça fait partie aussi du dernier commandement. Vous voyez ? Donc ici, il parle de cette manière. Mais ici, le frère Franck, il dit une autre chose, un peu spécifique, spéciale. Le journaliste lui demande, Donc, est-ce qu'on peut dire que les relations avant le mariage, ou bien les relations dans un mariage qui n'a pas eu lieu dans une église, est-ce qu'on peut considérer ça aussi comme des divorces, comme des adultères? Le frère Franck répond non, ce n'est pas un adultère. Si on parle de rapport avant le mariage, attention, ça signifie donc quand il y a deux personnes qui se rencontrent, jeunes, hommes et femmes, donc ils se rencontrent, donc avant d'arriver au mariage, bon, ils peuvent faire des choses, mais ce n'est pas un adultère. Mais ils doivent se marier, ils doivent aller de l'avant. L'adultère, c'est avec des personnes mariées, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, il dit l'adultère, on se réfère à cela seulement avec des personnes mariées. Seulement un mariage accompli, le contrat entre un homme et une femme, devant Dieu, devant les hommes. Si cette chose est rompue, ça c'est grave, et ça il peut y avoir de l'adultère dedans. Comme pasteur de vos âmes, j'aimerais ajouter la virginité d'une fille, elle doit la porter. C'est le seul bien qu'elle peut apporter dans ce mariage. Ni or ni argent n'ont la même valeur. Son mari lui en sera reconnaissant toute sa vie. Amen. Donc ça, c'est une chose qui est claire et nette. Maintenant, il dit une chose très importante. Avoir des rapports dans un mariage sexuel, dans un mariage qui n'ont pas été conclus dans une église, c'est pas un adultère. Et c'est vrai, et c'est vrai. Donc, qui n'a pas été fait dans une église, disons, célébré dans une église. Le mariage civil, comme on le connaît maintenant, qui est conclu devant un bourgmestre, un maire, donc ça date il y a plus ou moins 200 ans. Parce que, comme Matthieu 19, le Seigneur Jésus a dit, « Oh, commencement, c'est pas comme ça. » Ok. Donc, il y avait des anciens, tous les anciens étaient là, qui expliquaient les choses. Donc il n'y avait pas une signature particulière, un contrat, toutes ces choses-là, il n'y avait pas ça avant. Donc là, le frère Franck continue à expliquer que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, parce que justement, les siècles étant passés, les siècles passant, faites bien attention à cela, ce que Dieu a planté automatiquement, l'un n'enlève pas l'autre, ce qu'on va dire maintenant, l'un n'enlève pas l'autre. Parce que ce n'est pas qu'il ne faut plus aller à la commune, ou devant le bourgmestre en français, ou bien le syndicat en italien, ou bien à la mairie, pour se marier. Non, il ne faut pas enlever ça. Ça n'enlève pas ça. Ce que Frère Franck a dit n'a pas enlevé cela. Vous comprenez ça? Vous avez compris? Très bien. Mais au commencement, voilà pourquoi les siècles ont passé, les siècles passant, les personnes... Chaque fois, il y avait une nouveauté, il y avait des lois qui changeaient, il y avait des situations qui changeaient, et on allait de l'avant comme ça, de cette manière-là, voilà. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils avaient des rapports dans un mariage qui n'a pas été fait dans une église, ce n'est pas un adultère. Donc, l'adultère, on a dit que c'est seulement quand il y a déjà un mariage établi et que quelqu'un se met entre les deux. Le mariage civil, comme on le connaît maintenant, qui est fait devant un état civil, devant un bourgmestre, une mairie, ça date de plus ou moins 200 ans. Avant, c'est-à-dire la conclusion de mariage, c'était des histoires de famille. Simplement, les parents des deux côtés se mettaient d'accord. Et ainsi, deux jeunes avaient conclu un mariage ensemble. Donc, voilà. Ça, c'était ce qu'il y avait au commencement. Vous voyez Isaac, Jacob, on peut voir beaucoup de différents serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, et vous voyez que cette chose s'est passée comme ça, de cette manière-là. Mais aujourd'hui, donc plus bas, si on est plus bas, donc, alors le frère Franck dit, bon voilà, quelqu'un a dit, ah il ne faut pas aller faire l'acte civil, ah non, parce que les jeunes qui doivent fonder un foyer, ils doivent se marier selon la loi que Dieu a établie, les lois contemporaines que Dieu, voilà, qui sont ici, ce que Dieu a établi aussi. La soumission aux autorités, c'est ce qu'on a dit. Le mariage religieux, maintenant on parle de religieux, attention, faites bien attention, n'annule pas, n'a rien à voir avec Dieu. Ok, c'est vrai. Parce que le mariage est déjà établi. Donc tout ce que vous faites après, c'est un ajout. Ou je me trompe? Comprenez? C'est quelque chose qui, disons, comment on peut dire, c'est comme Israël en ce moment. Donc c'est une réjouissance. Voilà, comment on dit, la réjouissance. Gioire in Italia, une réjouissance. Être joyeux, se réjouir de cette chose, qu'un mariage a eu lieu, qu'une union s'est faite. Et donc, voilà, on se réjouit de ces choses. Mais ça, attention, ça, ce qui est fait ensuite, ça c'est autre chose qui fait après. Mais la bénédiction de Dieu, c'est autre chose. Voilà pourquoi tous les détails, parfois, qu'il ne les a pas donnés. La bénédiction de Dieu, comme dans les temps antiques, au commencement, c'était comme ça, à l'époque où il y avait les anciens, etc., qui bénissaient. Cette chose reste, demeure là. Donc ça ne fait pas partie de la religiosité, parce que notre assemblée, non, je veux dire la foi dans la parole de Dieu révélée, ce n'est pas de la religion, on n'est pas dans une religion. Est-ce que vous avez compris? Donc je dis un peu rapidement comme ça, comme je le sens dans mon cœur. Donc c'est important cette chose-là, qu'on réalise, qu'on comprenne. Donc la parole religieuse, c'est pour ça que le mariage religieux n'a rien à voir avec Dieu. Bien sûr, c'est déjà fait. C'est une chose qui vient après. Si les deux personnes, hommes et femmes, qui ont été mariés seulement civilement, sans avoir eu un mariage religieux, donc on parle de uniquement civilement, ça veut dire que ils maintiennent le protocole de ce qu'on fait aujourd'hui, de nos jours, tout ce qui est contemporain. On va devant la mairie ou le bourgmestre à la commune et on se marie à la commune ou à la mairie. Un homme, une femme qui ont été mariés seulement civilement sans avoir eu un mariage religieux, ils vivent ensemble, ce n'est pas un adultère. Vous comprenez? Voyez ce qu'avait établi l'Église catholique, ce que l'Église catholique avait établi, que tu es adultère, mais ça n'a rien à voir avec la réalité divine, avec la parole de Dieu. Que si tu ne passes pas par l'Église, si tu ne passes pas par la partie religieuse, vous voyez, on ne peut pas se marier. Alors s'ils le font, ils commettent adultère. Mais ce n'est pas comme ça. Ça, je crois que vous avez tous compris. J'espère que oui. Et j'aimerais avoir cette approbation. Parce que c'est important. Amen. Mais, frère Franck, quand la parole de Dieu dit, d'abord, le frère Franck qui parle avoir de relations avant le mariage, c'est pas un adultère, lui, il n'a pas voulu aller dans la profondeur en parlant de ce qui peut être, pas l'adultère, mais la fornication. Parce qu'il y a beaucoup de passages des Écritures qui parlent d'autre chose qui est la fornication quand il y a des jeunes avant le mariage. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas de l'adultère, mais c'est une fornication. N'est-ce pas? Alors, écrivez, je ne vais pas le lire, 1 Corinthiens 6-18, Romains 6, Hébreux 13-4, 1 Thessaloniciens 4-4, 1 Corinthiens 7-1. Voilà pourquoi quand Frère Franck dit avoir des relations avant le mariage, ce n'est pas un adultère, mais il s'agit de rapports pré-matrimonial, comme on dit, avant le mariage. Mais néanmoins, la fornication là. Et ça fait, il rentre là-dedans dans la fornication. Donc il faut, donc je ne veux pas continuer sur ce sujet, mais c'était pour expliquer que ce que le Frère Franck a dit, qu'il y a plus ou moins 200 ans qu'on fait qu'on va à la commune, qu'on fait des choses comme ça, des choses administratives, mais ça n'enlève pas que maintenant il faut aller à la commune, c'est clair. Alors si jamais ce petit enregistrement, on peut l'envoyer à des frères, donc si on peut enregistrer et envoyer ceci. Donc il faut que les gens écoutent aussi. Parce que c'est important. L'un n'enlève pas l'autre. Il faut être avisé. Il faut être avisé. Sinon, voilà. Et puis ensuite, non, certainement, le frère Franck, il continue. Donc la satisfaction des exigences physiques du mariage doit seulement être... Et là, il donne l'explication, mais je ne vais pas lui dire avec ça. Voilà, puis il explique. Parce que c'est important que cette chose puisse être bien comprise dans la juste manière, de la juste manière. Sinon, on sort... Voilà. Désolé que vous ne l'ayez pas, mais celui qui a les commandes, on peut le lire, sinon on va le... Mais bon, je peux essayer... Je vais essayer, mais c'est, bon, il est un peu abîmé. Je peux essayer de l'imprimer. Mais à Dieu soit toute la gloire. Vous voyez, cette chose était nécessaire. Moi, je ne l'ai pas écouté parce que, justement, j'avais déjà cette retranscription dans une brochure italienne, donc ce n'est pas nécessaire pour moi d'écouter encore. Voilà, par contre, on connaît ces choses depuis très longtemps. Seulement que maintenant, de temps en temps, d'un côté, on reste... avec un esprit catholique, voilà, c'est ça qui est grave. On reste avec un esprit catholique. Et cette chose ne doit pas être là, dans l'Église du Dieu vivant, aujourd'hui, avec le messager de l'époque, de la fin, du temps de la fin. On n'a plus rien à voir avec la grande prostituée, avec Babylone, c'est fini. Il va y avoir un détachement total. Et à ce point-là, donc... on pourra alors réaliser ce que l'Esprit dit à l'Église et faire les choses conformes aux Écritures, conformes à la pleine volonté de Dieu, comme c'était avant. On va de l'avant tranquillement, vous voyez, et ça ne dérange personne. Alléluia. Amen. Voilà, je clôt ce sujet. Nous allons prendre la page 16 en italien. C'est donc la lettre circulaire 45 de janvier 1996. Donc je crois que c'est clair ce que j'ai dit sur les 10 commandements, que la chose puisse vraiment être bien comprise. Voilà, je continue à partir de le commencement de la page. Donc voilà. On va lire ici. Donc on avait parlé de Dathan, de Corée, etc. Et qu'avant la fin, écoutez attentivement ceci. Le frère Franck avait écrit ceci. Écoutez attentivement maintenant. Toutes les écritures qui ne sont pas accomplies doivent l'être avant ce temps-là. La Bible doit parvenir à son achèvement. La dispensation des nations doit être terminée avec le dernier âge de l'Église. Notre époque, l'époque de Laodicée, l'âge de Laodicée, chapitre 3 de l'Apocalypse. Vous voyez ? Quand ce messager oint arrivera, il plantera évidemment la semence de la Bible tout entière pendant la première pluie. Commençant. Donc, quand ce messager oint arrivera, il plantera évidemment la semence de la Bible tout entière pendant la première pluie. On sait. Donc ici, en fait, c'était la retranscription de ce que frère Branham avait dit, c'est frère Franck qui l'a repris. Donc souvent, le frère Branham, il ne se mettait pas en avant pour dire « Moi, je suis lui, c'est moi, je suis celui-là, je suis le prophète. » Parfois, quand il y avait un moment de guérison, par exemple, parfois sur le pupitre, parfois il disait « Tu crois que je suis le prophète de Dieu ?» Alors il disait « Prophète veut dire prédicateur, etc. » Mais nous savons que Malachi s'est accompli, il est venu, le messager de Malachi 3. C'est tout comme Malachi 4, 5. Le cœur des fils vers le Père apostolique, et aussi le cœur des pères vers le Fils. Tous ces deux sont déjà passés. Alors ici, le frère Branham avait dit, quand ce messager oint arrivera, il plantera évidemment la semence divine tout entière pendant la première pluie, commençant depuis le serpent pour arriver jusqu'au messager, c'est-à-dire toutes les révélations, tout ce qui était caché, tout ce que les églises ont caché, ont mis de côté, ou c'était c'était pas encore leur temps, ce que vous voulez. Mais en ce moment-ci, dans cette période-ci, dans cette dispensation-ci, tout a été mis sur le chandelier. Il sera alors rejeté par les gens des dénominations, comme le furent ses prédécesseurs Jean et Élie, selon ce qu'a dit notre Seigneur, Élie ayant été rejeté la première fois du temps d'Akab. Et cela arrivera ici dans ce pays, étant donné qu'il est un type d'Israël. Donc là, il parle des États-Unis, l'Amérique. Et là aussi, comme à la fin, le frère Branham a dit clairement que le Seigneur avait s'était tourné vers les autres nations, comme le soleil se tournait vers l'Est. Donc il va revenir à nouveau à l'Est, vous voyez. C'est ainsi que ça s'est passé, et c'est comme ça que ça se passe maintenant. Donc, partant de l'Amérique, il a rejeté le prophète, le signe du temps de la fin. Vous voyez ? Et certains l'ont pris et d'autres l'ont rejeté. Lisez ou écoutez cette prédication à la religion de Jézabel. Je ne sais pas si vous avez cette prédication, la religion de Jézabel, mais c'est profond. C'est spécial. Et là, le frère Branham donne aussi des explications de partie prophétique. Et nous savons, comment dire, que là, il parle beaucoup de ça, de ce thème-là. Nos pères adoraient comme ils le voulaient, après être venus dans ce pays dont ils s'emparèrent en chassant les indigènes, c'est-à-dire les Indiens, tout comme Israël le fit après être sorti d'Égypte. Quand ils sont entrés dans la terre promise, ils ont dû chasser ceux qui étaient là. Ils se sont établis là. Mais en réalité, c'est Dieu qui leur avait donné cette terre, ce pays-là. C'est Dieu qui l'avait donné aux fils de Jacob, les fils d'Israël. Nous avons eu des hommes pieux comme Washington et Lincoln. Ils eurent eux aussi de grands hommes pieux comme David, etc. Ils eurent aussi un Akab sur le trône avec une Jézabel derrière lui pour le diriger. Nous avons la même chose. C'est pourquoi c'est en ce temps et dans ce pays que cette personne apparaîtra. Car c'est dans les Écritures, et c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Vous voyez ? Ainsi dit, c'est dans les Écritures. Ici, on peut aller dans l'Apocalypse, dans la partie prophétique. 3, 13, 17. Mais on ne va pas parler de ces choses-là pour le moment. Ensuite, au temps de la dernière pluie, il y aura un dénouement spectaculaire au mont Carmel, la Bible étant accomplie à la lettre. On en a parlé un peu dimanche. Au temps de la dernière pluie, quand ça se passera, il y aura donc un dénouement spectaculaire, un mont Carmel, la Bible étant accomplie à la lettre. Jean-Baptiste, le messager devant sa face, de Malachie 3, répandit une première pluie et fut rejeté par les églises de son temps. Les dénominations. Faites bien attention à la chose principale. Et puis après, le frère Franck l'explique. Donc, chaque fois qu'un serviteur de Dieu, oint par la parole de Dieu, pour la parole de Dieu, pour apporter la parole de Dieu, si c'est vraiment de Dieu, il y a toujours une partie qui le rejette et une partie qu'il accepte. C'est toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Donc ici, cette chose, c'est important. Les élus, sûrement, l'accepteront, mais ceux qui doutent, resteront. Et voilà. Donc je continue à lire. Donc, il fut rejeté par les églises de son temps, les dénominations pharisiennes et sadducéennes. Jésus vient ensuite et il y eut le dénouement de la montagne de la transfiguration. Donc, Jésus vient ensuite et il y eut le dénouement de la montagne de la transfiguration. Ce précurseur des derniers jours sèmera pour la première pluie. Ça veut dire quoi le monde de la transfiguration? Ensuite, on va lire des passages. Même concernant l'Élie qui rédhabille toute chose, Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Moïse et Élie sont apparus et son visage était totalement transfiguré, c'est-à-dire blanc, blanc comme la lumière. Et c'est comme ça que l'épouse de Jésus-Christ deviendra comme ça le jour de l'enlèvement. C'est pour ça qu'il parle de cela à ce moment-là. Disons, c'est-à-dire il fait cette relation, ce parallèle. Donc ce précurseur des derniers jours sèmera pour la dernière pluie. Joël 2. Ça, c'est pour la première pluie. C'est-à-dire l'enseignement, la mise au point, les corrections, tout ce qui devait être mis au point, c'est-à-dire remettre sur le chandelier toute parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur des Écritures. Amen. Voyez, c'est ça qui devait se passer. Jésus sera le dénouement entre les dénominations. Voilà, Jésus sera le dénouement entre les dénominations, les credos et sa parole. Quand il vient, le dénouement est l'enlèvement de son épouse. Le premier fut le mont Carmel, le deuxième la montagne de la transfiguration, le troisième sera la montagne de Sion. C'est-à-dire quand il se fera reconnaître au ciel. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens parmi le peuple ne comprirent pas le comportement d'Élie, de Moïse et de Jean lorsque ils quittèrent le champ de leur service. Mais s'ils le firent, c'est parce qu'ils furent rejetés ainsi que leur message. La semence avait été semée. Ensuite viendrait le jugement. Alléluia. Je crois qu'on a tous compris cela. Je crois et j'espère que ça a été compris. C'est-à-dire que dans les différents passages de ce message où le Seigneur nous a apporté par sa grâce, parce qu'on a reçu la révélation et la lumière, on peut voir les étapes, les trois étapes. Vous voyez, il y a la confrontation, après il y a la résurrection des morts, et puis l'enlèvement, et ensuite le Seigneur vient et se fait reconnaître au sien, et chaque œil le verra. On va lire quelque chose dans Marc 1:1. Nous allons lire quelques passages des Écritures dans Marc 1, chapitre 1. On les connaît, ces passages, mais on va quand même les relire. La parole de Dieu, c'est elle qui s'imprime dans le cœur, qui reste scellée dans le cœur. C'est ça dont nous avons besoin. C'est par la parole qu'on vit. Toute parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, vous voyez. Donc, évangile. Donc, le frère Franck avait ajouté commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, c'est la parole qui est évangélisée, qui est apportée, qui est prêchée. Donc le frère Franck donnait une explication concernant le message du temps de la fin. Un message. Comme il est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. » Jean vint baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance, en rémission de péché. Et tout le pays de Judée et tous ceux de Jérusalem sortaient vers lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. Vous voyez? Et alors il dit, viens, au verset 7. Et il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier. En me baissant la courroie des sandales. Moi, je vous ai baptisé de lui, vous baptisera de l'Esprit Saint. Donc, l'esprit d'Élie est venu sur William Marion Branham pour préparer la seconde, pour apporter un message qui prépare la seconde venue du Christ. La même chose, identique. Préparer le chemin, ça c'était pour Jean-Baptiste. Et ici aussi, on est dans une phase de préparation. Donc j'ajoute ceci, petite parenthèse. Tous ceux qui n'ont pas été baptisés du baptême de Jean, vous voyez, ils ont rendu nul, c'est écrit, le plan de Dieu pour eux-mêmes. Maintenant, aujourd'hui, dans cette dispensation d'aujourd'hui, dans ce laps de temps d'aujourd'hui, dans ce que Dieu nous a donné maintenant, ceux qui vont écouter le message, l'évangile de ce dernier temps, de cette dernière époque, et qui ne sont pas baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils rendent nulle la visitation dans leur cœur, pour leur cœur, que Dieu désire leur faire connaître tout le plan de Dieu. Vous voyez, c'est important que le baptême ait lieu. En temps de Luther, il baptisait encore les enfants à cette époque-là. Il n'avait pas encore eu la révélation. Il y avait juste la justification là. Mon juste vivra par la foi, pas par de l'argent ou par des prières ou par l'aumône ou parce que je donne de l'argent aux prêtres. Non, je vis par foi. Le juste vivra de foi. La justification. Ensuite est venu Wesley, la sanctification. Et ensuite un peu avant, il a continué avec le baptême du Saint-Esprit à Azusa Street, l'effusion du Saint-Esprit. Tout cela, c'était une suite. Mais aujourd'hui, maintenant, dans cet âge-ci, là où tout a été remis sur le chandelier, où toute la parole a été révélée, alors il est nécessaire que le baptême ait lieu, pas au nom de Branham. Combien de personnes baptisent au nom de Branham? Pas au nom de Franck, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné la révélation de qui était le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est clair. C'est important. Donc c'est nécessaire qu'il y ait le baptême et qu'il soit mis en action afin que le Seigneur puisse commencer à œuvrer, à faire entrer la semence dans le cœur et qu'elle puisse grandir en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, comme on l'a dit dimanche. Alléluia. Je continue à lire ici donc ce que frère. Lisons un peu dans Luc. Luc 1, 15. On connaît déjà tout cela. Luc 1, 15. On connaît tous ce passage des Écritures. Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise, il sera rempli de l'Esprit Saint déjà de le ventre de sa mère. Et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants vers les rebelles à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Vous voyez ? Donc, chaque déclaration que nous faisons, comme ce qu'on a lu sur les 10 commandements, ça doit toujours être appuyé sur la parole. Le seul témoin qui peut nous donner tort ou raison, c'est la parole. Vous y êtes l'unique témoin, l'unique maître de mesure qu'on doit avoir, c'est la parole. Et donc, voilà. Ensuite, on peut aussi lire dans justement la même chose, le 11 juin 1933. Quand il y avait la nuit, quand la nuit est venue, et on connaît déjà tout ça, on a déjà entendu tout cela. On dirait que c'est la même chose, mais c'est juste, c'est une chose correcte. Le Seigneur a dit au frère Branham, lève les yeux, et la nuit était là, et la voix est sortie, et toutes les personnes tombent à terre. Voilà, tout ça c'est vrai. Il y en a qui fuyaient par là, il y en a qui fuyaient par ci, par là, il y en a qui ont eu peur de cette voix qui est venue, et de cette présence surnaturelle de Dieu. Alléluia. Et ça, qu'il a été dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé, etc. Ainsi ton message est envoyé. pour préparer ma seconde venue. Vous voyez? Donc, pas l'homme, mais la parole qui sort. Faites bien attention. Pas l'homme, mais la parole qui sort. Alléluia. Ça, on a réalisé. On l'a compris. Donc, Matthieu 17, 11, on connaît tout cela. Quand l'Élie viendra, il mettra toutes choses à sa place. Il restaurera. Et puis ensuite, il a parlé de Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il est aussi venu. Donc, chaque chose à sa place. Je continue à lire. Le temps passe vite ici. Donc, on est arrivé ici. Donc, c'était on est en train de dire que, après que le message ait été semé, cette pluie de l'enseignement, ensuite, le diable vient et cherche. Voilà pourquoi Matthieu 13 dit, on peut le lire, mais on n'a pas le temps, que l'ennemi vient ensuite pour semer sa zizanie, sa mauvaise semence. Et disons qu'il fait en sorte qu'une partie rejette le messager et il rate aussi le message. Vous voyez ? Il rejette le messager et il rejette aussi le message. Alléluia. Donc, je relis ici. Beaucoup de gens parmi le peuple ne comprirent pas le comportement d'Élie, de Moïse et de Jean lorsqu'ils quittèrent le champ de leur service. Mais ils le firent parce qu'ils furent rejetés, ainsi que leur message. La semence avait été semée, ensuite viendra le jugement. Ils étaient pour le peuple un signe devant Dieu, montrant que le jugement était proche. La plantation était terminée. Je crois qu'un jour, la véritable épouse de Christ sera forcée d'arrêter de prêcher la parole de Dieu. La Bible prophétise cela dans Apocalypse 13, 16. Les dénominations la forceront à arrêter ou à prendre leur marque. C'est alors que l'agneau prendra son épouse et jugera la prostituée pour cela. Frère Branham. Bon, ici, ce sont des paroles du frère Branham. C'est le frère Franck qui les écrit, mais c'est le frère Branham qui a dit cela. Donc, on voit. Donc, lui, il se comprend. Il va de l'avant, le frère. Il se comprend. Et nous aussi, on peut comprendre. Mais combien avaient mal compris à l'époque ? Mal compris les passages des Écritures. Et ils ont commencé à faire un pasticcio. Vraiment, ils ont fait un désordre. Mais Dieu nous fait grâce d'avoir reçu ce ministère particulier du docteur, du frère Franck, où il a pu remettre toutes choses à sa place. Parce que le prophète, il faut le comprendre. Il faut avoir l'esprit de Christ pour pouvoir le comprendre. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Donc, rappelez-vous que Moïse, bien que né pour cette œuvre, dut attendre de Dieu un don supplémentaire pour pouvoir accomplir son travail. Il dut retourner, et attendre. Au temps choisi par Dieu, il fallut qu'un certain pharaon fût sur le trône. Il fallait que le peuple manquât du pain de vie avant que Dieu le leur envoyât. Les milliers de faiseurs de signes qu'il y a en ce temps de la faim ont fait lever toute une génération de chercheurs de signes qui ne connaissent rien au véritable mouvement de l'Esprit de Dieu dans sa parole qui a lieu en ces derniers jours. Pourquoi est-ce que Dieu attend ? On le sait. Pourquoi est-ce que Dieu attend maintenant ? Et parce qu'on crie « Seigneur, libère-nous » comme le peuple d'Israël. Quand ils criaient à Dieu dans leur souffrance, ils criaient à Dieu lorsqu'ils étaient maltraités, ils criaient à Dieu lorsqu'ils n'avaient rien à manger, ils criaient à Dieu, etc., etc. C'est toujours dans la souffrance. Mais il y a tout un plan de maturité que Dieu seul connaît et que Dieu seul est capable de distribuer le temps, les moments, pour faire en sorte que personne ne se perde et que tout arrive là où Dieu veut que ça arrive. C'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est quelque chose que peut-être nous, on ne comprend pas. Parce qu'on est fait de chair et on pense encore à manière humaine. Mais Dieu pense au-delà parce qu'il est le Créateur, l'Omnipotent, l'Omniscient, il connaît la fin avant le commencement. C'est quelque chose de spécial et de glorieux de savoir cela. Il doit avoir une fin, une fin. Amos 8, 11, la faim et la soif, non pas de pain, etc. On sait cela. Mais on parle de quelle faim? Moi, je crois parfaitement qu'il s'agit de la faim de ce message, de la famine de ce message, de cette révélation. Ça, c'est la vraie faim que l'élu cherche pour nourrir son âme et la faire grandir en toute conformité à la parole de Dieu. Vous voyez? Et c'est ce message, c'est de cela qu'il s'agit. On parle de cette faim-là. Parce que beaucoup d'églises, surtout dans l'église catholique, les baptistes, les pentecôtistes, combien d'églises évangéliques il y a, combien de nourriture ils distribuent, vous voyez? Mais aujourd'hui, et même matériellement, on a assez de nourriture, mis à part quelques pays où ils sont encore dans la souffrance. Mais même matériellement, il y a assez de nourriture, même spirituellement. Mais on parle de cette nourriture-ci, dont le prophète parle. Donc, le frère Franck aussi, quand on parle de Amos 8, 11. Matthieu 17, 11 et Actes 13, 19. Ou 3, 19, pardon. Donc ici, je relis. Donc, les milliers de faiseurs de signes. Donc, entre-temps, pendant qu'il y a la parole, avec les milliers de faiseurs de signes, il y a des milliers de faiseurs de signes. C'est vrai. Bon, j'ai du sang sur la main, sur le front. Ce sont des signes qui sont là pour attirer le peuple. Mais, même, parfois, même avec des miracles. Pas de doute, même parfois avec des miracles. Mais tout ça, ce sont des signes qui sont en dehors du contrôle de Dieu. Parce que c'est pas ça, des signes. Le signe, c'est pas ça. Et alors, plus loin, on va le voir. Donc, il fallait que le peuple manquât de pain, de vie, avant que Dieu leur envoyât. Les milliers de faiseurs de signes, qu'il y a un temps de la fin, ont fait lever toute une génération de chercheurs de signes. Regardez le temps de la Pentecôte. Après avoir reçu tout au commencement, donc en 1909, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire cette bénédiction spéciale, l'onction spéciale qui est venue, par le baptême du Saint-Esprit, vous voyez? Donc il y avait des signes, des miracles. Les gens dormaient sous les ponts, je ne sais pas comment dire. Ils étaient pris par l'Évangile, ils étaient pris par ce message. Et il y avait de grandes bénédictions. Et ça c'est vrai, il y avait des grands signes. Mais beaucoup ont continué sur ce chemin-là. Beaucoup ont continué sur un autre chemin. Le baptiste, par exemple. Ils ne sont pas attachés à des signes. Parce que le baptiste, il dit, « Oh, toi, quand tu as cru, ben, tu as reçu cet esprit. » Mais bibliquement, ce n'est pas comme ça. Et ça, on le sait. Bibliquement, ce n'est pas comme ça. Donc, il y a encore aujourd'hui, parmi nous, il y a encore des faiseurs de signes qui ne connaissent rien au véritable mouvement de l'Esprit de Dieu. Je l'ai souligné, qui ne connaissent rien au véritable mouvement de l'Esprit de Dieu dans sa parole qui a eu lieu dans ces derniers jours. Alléluia. Vous voyez? Dieu parle au cœur. Dieu sait comment parler au cœur. Dieu sait comment pénétrer à l'intérieur et donner la révélation et la lumière, la juste lumière, la clarté. Il voit de quoi nous nous contentons, si on se contente de l'apparence, ou est-ce qu'on parle de vivre intérieurement et de pratiquer, de vivre vraiment la parole en communion avec notre Seigneur. Vous voyez, il y a une différence. De vouloir se créer une manifestation particulière au lieu d'être tranquille et de vivre vraiment la parole de Dieu. Et de la goûter. Goûter où c'est la communion, la présence, la bénédiction. De sentir que les larmes coulent des yeux, de sentir que le Seigneur nous parle. Et que tu es avec lui, que tu as la confirmation d'être avec lui. Indépendamment des signes, des miracles, des choses qui arrivent. Ok. Mais ça, c'est glorieux, mes amis. Ça, c'est important. Et ça te rend humble, ça t'abaisse. Pourquoi? Parce que tu vois que sur ce chemin-là, Dieu t'accepte, Dieu te veut, et Dieu te parle. Alléluia. Amen. Je continue. Donc ils ne savent, ils ne connaissent rien au véritable mouvement de l'Esprit de Dieu dans sa parole qui a lieu dans ces derniers jours. Comme je l'ai déjà dit, donnez-leur du sang, de l'huile et des démonstrations charnelles sur l'estrade. Ils l'appuieront. Ils le soutiendront, l'accepteront. Que ce soit conforme à la parole de Dieu ou non, que ce soit scripturaire ou non, Jésus nous a avertis que de telles choses arriveraient au temps de la fin. Et ça, c'est vrai. Amen. Et c'est ce que nous avons vu, naturellement. Celui qui arrive maintenant, il n'a pas vu ces choses-là. Il rentre directement dans la parole révélée. Mais ceux qui ont vécu avant, ils ont pu goûter tout ce qu'il y avait avant. Ils ont pu voir ces choses-là. Donc, ils savent vraiment ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, dans Matthieu 24, il y a deux esprits qui se ressemblent beaucoup. Attention ici. Il y a deux esprits qui se ressemblent beaucoup, au point de séduire même les élus si c'était possible. Comment pouvez-vous les reconnaître? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur ce soir puisse parler avec nous. Et pour tous ceux qui écouteront, parce que c'est important. Comment pouvez-vous les reconnaître? Faites-leur subir le test de la parole. Voyez? Faites-leur subir le test de la parole. Et de quelle parole? Quelle parole? Voyez? La parole d'aujourd'hui. Amos 11. La parole, le message du temps de la fin, la parole révélée. C'est-à-dire la restauration, la restructuration de l'âme devant Dieu en recevant la semence divine de ce qu'on a maintenant, aujourd'hui. Il faut comparer avec ça. Comment ils vivent réellement? Il faut vraiment le mettre en confrontation avec cette parole-ci. On parle de cette parole-ci, on ne parle pas de l'évangile pentecôtiste. Il ne faut pas le mettre en confrontation avec l'évangile des pentecôtistes ou de Luther, non. Et des autres. Non. On parle de cette parole-ci. Alléluia. Comment la reconnaître? Comment pouvez-vous la reconnaître? Prononcez la parole et voyez ce qu'ils en disent. S'ils ne croient pas la parole, comment est-ce que tu as été baptisé? On doit plus fils cet esprit. Mais que dit l'Écriture? Je dis ça comme exemple. Donc, confrontons-les. Comment est-ce que tu as été baptisé? Ah, c'est là qu'on reconnaît qu'il y a vraiment des lacunes et qu'ils ont besoin de venir à la foi originale. Vous voyez? Je ne parle pas que du baptême. Parlons du mariage. Vous voyez? Parlons de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et de beaucoup d'autres choses. Parlons d'Israël. Vous voyez? S'ils ne croient pas la parole, c'est qu'ils n'ont pas le germe de la semence en eux. Être baptisé au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas une révélation? C'est vrai, c'est une révélation. Pourquoi Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont des titres, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ? Pour nous, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que Dieu nous a ouvert l'entendement, le cœur. Il t'a ouvert le cœur, il t'a donné la révélation. C'est pas difficile à comprendre. Voilà pourquoi eux, ça veut dire qu'en eux, il n'y a pas de semence. Ok. Ils sont du malin et vous séduisent. De même que la première épouse fut séduite et que la deuxième épouse le fut aussi, ils séduisent la troisième épouse en hybridant la parole. Ou, en tout cas, ils essayent de le faire. C'est-à-dire nous ici. En hybridant la parole, ou en tout cas en essayant de le faire. Comme on le sait. C'est impossible qu'un élu soit séduit. Ce ne sont pas des phrases qu'on répète. C'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur. Une parole où tu as le cœur attiré à la vérité, où tu ne l'as pas. Et si tu l'as, c'est que Dieu te l'a donné. Parce que lui t'a ouvert le cœur. Sinon, de toi-même, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Pas difficile à comprendre. Amen. Mais essaie de le faire. Dieu n'a jamais... Ève, la première, elle a été séduite. Bon, ici aussi, on pouvait aussi parler de Sarah. Mais Sarah est incluse aussi. Et puis Marie. Marie aussi. Marie, c'est la dernière étape. Il y avait quelque chose qui était particulier, qui ne venait pas de l'homme, mais qui venait directement de Dieu. Ça venait de Dieu. Voilà pourquoi Marie n'a rien mis pour engendrer, pour mettre au monde, pour mettre au monde le Fils de Dieu. Il a, ça a seulement été la parole faite chair, la semence, qui a été prononcée par l'ange qui disait l'Esprit de Dieu te couvrira ton ombre, et la parole a produit la vie. Et exactement ce qui s'est passé dans notre cœur. Alléluia. C'est la semence de la vie qui a produit la vie. Quelqu'un est venu, il a dit, regarde, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas comme ça, c'est comme ça. La parole de Dieu, c'est comme ça et comme ça. Hop, il y a eu quelque chose. Une étincelle. Alors là, il y a eu vraiment un contact. Exactement. Mais comment je dois faire? Ne te préoccupe pas, ne tracasse pas, c'est le Saint-Esprit qui fera les choses. Donc il ne s'agit pas seulement de croire, parce que tout le monde croit. Mais vous recevrez le don du Saint-Esprit qui est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur Dieu les appellera. Vous voyez? Voilà où est la suite des choses. Alléluia. Dieu n'a jamais placé les signes avant sa parole. Écoutez, Dieu n'a jamais placé les signes avant sa parole. Amen. C'est une riposte cinglante. Dieu n'a jamais placé les signes avant sa parole. Ils ont été ajoutés pour servir de preuve à la parole. Mais la parole vient en premier. Alléluia. Vous voyez? La semence, l'ensemencement vient d'abord pour toucher les cœurs, pour voir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu, qui accepte et qui n'accepte pas. Vous voyez? D'abord l'ensemencement, la semence. Et ensuite le Seigneur se manifeste en te donnant vraiment le signe. Quel est le signe? Donc vous avez le signe, c'est le signe du Saint-Esprit, le signe de Dieu. Ça c'est le signe. Juste, vous êtes? Amen. Ce n'est pas un signe visible. Caïn avait un signe visible que personne ne pouvait le tuer. N'est-ce pas? Mais vous n'avez pas sur vous un signe visible. C'est dans le cœur. C'est le cœur qui est complètement changé, touché de la manière que Dieu l'a voulu avant la fondation du monde. Une création originale nouvelle. Faite nouvelle. Là où l'homme n'a rien à voir, ni connaissance, ni intellectuelle, rien. C'est l'Esprit de Dieu qui fait cela. Ça, c'est le signe. Le changement. Alléluia. Le changement, c'est le signe qui démontre que tu es un fils et une fille de Dieu. Et qu'il n'y a plus personne qui peut te détacher de cet objectif et de la foi, de cette foi. Personne. Personne ne peut le faire. Fini. Voilà pourquoi l'élu ne peut jamais être séduit. Amen. Alléluia. Amen. Que c'est merveilleux. Alléluia. Pour prouver cela, Élie dit à la femme, prépare-moi d'abord un petit gâteau. Fais-moi d'abord un petit gâteau. Voyez ensuite le miracle se produire. D'abord, fais-moi un petit gâteau ne tracasse pas. Aie foi. Crois. Et la foi. Alléluia. Comment est-ce qu'on ne peut pas avoir la foi ce soir? Aie d'abord la foi. Crois. Fais-moi d'abord un petit gâteau. Et puis ensuite, vois le miracle se produire. Venez. Premièrement à la parole, ensuite observez le miracle. Accepte. Crois. Ouvre ton cœur. Ouvre ton âme. Viens. Alléluia. Et ensuite, observez le miracle. C'est à la parole semence. C'est à la parole semence elle-même que le Saint-Esprit donne l'énergie. Amen. Vous y croyez? Voilà pourquoi, même si vous mourrez, vous vivrez. Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre vous, le même esprit qui habite en vous, ressuscitera encore vous des morts. Alléluia. Vous ressuscitera des morts. La même chose. C'est glorieux, mes amis. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est vraiment glorieux. Il n'y a pas de parole pour remercier Dieu, le Seigneur, de ce qu'il nous fait comprendre. Et comment il nous le fait comprendre? Faites attention. Le diable lutte. Le diable vous combat. Le diable cherche à faire tomber. Le diable cherche à te détacher, à te mettre dans une autre direction, de te faire comprendre les choses différemment. Mais il ne faut pas céder, mon ami. Ne cédez pas. Continuez à croire fermement que tout est possible. Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Voilà pourquoi il y aura une vraie résurrection. Il y aura un vrai enlèvement, quelque chose de glorieux. L'ultime pluie, il y aura une ultime pluie. Ayez foi en Dieu, comme Jésus l'a dit, ayez foi en moi, la parole. Parce que Jésus est la parole. Alléluia. Donc je continue à lire. Amen. C'est dans 1 Roi 17, 13. Ensuite, observez le miracle. Venez, premièrement la parole, observez ensuite le miracle. C'est à la parole semence elle-même que le Saint-Esprit donne l'énergie. Regardez avec Marie. Donc cette semence, sans avoir un homme, ça commence à grandir dans le sein de Marie. Un messager envoyé de Dieu peut-il ne croire qu'à une partie des Écritures seulement et pas à toute la parole? Est-ce qu'un messager envoyé de Dieu peut-il ne croire qu'à une partie des Écritures seulement et pas à toute la partie? Peut-il en renier une partie? Le véritable prophète de Dieu proclamera la parole de Dieu, la parole dans les derniers jours, et les dénominations le haïront. Faites bien attention. Regardez ce qui est écrit. Il ne mâchera pas ses mots. Il sera comme il était lors de la première venue de Christ. Race de vipère, Jean-Baptiste. Trois petits points. Mais les prédestinés l'entendront et se prépareront pour le compte à rebours. La semence royale de la foi d'Abraham se tiendra comme lui à la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive. Se tiendra comme lui à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive, car qu'elle est prédestinée. Se tiendra comme lui à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive, car elle est prédestinée. La semence royale de la foi d'Abraham se tiendra comme lui à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive, car elle est prédestinée. Le messager de Malachi 4 apparaîtra au moment déterminé par Dieu. Nous l'attendons tous. Bien sûr, nous savons qui c'est. Nous savons qu'il est déjà venu. Nous savons. Mais là, le frère Branham lance encore cette phrase. Voilà. Dans son humilité, il ne voulait pas se mettre en devant, mais il voulait rester derrière et laisser le Christ, la parole, parler plutôt que lui. Parce que, comme on l'a toujours dit, comment vous faites pour déterminer, je le dis encore une fois, et que ce soit compris spirituellement, comment pouvez-vous comprendre si tel homme a un don, ou un ministère, ou tel, comment? C'est selon la parole qu'il prêche, de la manière dont il prêche. Qu'est-ce qu'il donne? C'est ce qu'il a reçu de Dieu, sinon on ne pouvait pas l'avoir. Ça, c'est important. Cela se passera. Nous l'attendons tous, nous croyons qu'il viendra, c'est en accord avec sa parole, cela se passera dans les derniers temps, et c'est maintenant le temps de voir cela. Vous voyez un peu comment le frère Branham parlait. Si on ne comprend pas bien cela, il sera correctement dédié à la parole, comme les autres l'ont toujours été. Il sera signalé par la parole de Dieu et confirmé. Il sera signalé, confirmé, et confirmé. Dieu confirmera que ce qu'il prêche est la vérité, comme il le fit pour Élie, car c'est Élie qui vient préparer pour l'enlèvement de la montagne de Sion. Car c'est l'Élie qui vient préparer pour l'enlèvement de la montagne de Sion. Vous voyez. Voilà, il met l'enlèvement. Et aussi à la fin, quand il sera vu de tout le monde, quand tout le monde pourra dire Zacharie 7. Voilà, c'est nous qui t'avons fait ces choses, les frères, tes frères, voilà. Vous connaissez l'histoire. Il sera dédié à la parole, comme les autres l'ont toujours été. Il sera signalé par le Père de Dieu, confirmé. Jésus a dit que dans les derniers jours, ce serait comme au temps de Lot. Sa prédication sera conforme à l'esprit et dans la droite ligne de la parole de Dieu. Tant de choses ont été appelées la vérité de Dieu. S'il n'y a pas vraiment une guide donnée par Dieu, nous, on ne serait même pas ici ce soir. Peut-être avec une autre direction, avec d'autres idées, mais peut-être qu'on n'y serait même pas, parce que Dieu nous a fait vraiment grâce. Donc il dit ici, tant de choses ont été appelées la vérité de Dieu que beaucoup comprendront mal ce vrai messager. J'ai inscrit ici le mot prophétie, parce que tant de choses ont été appelées, entre guillemets, la vérité de Dieu par des falsificateurs, beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce messager. Vous comprenez? Que ce soit frère Branham ou frère Franck ou d'autres, ils vont mal les comprendre. Daniel 12. Lisons un peu dans Daniel 12. Un passage que vous connaissez déjà tous, dans Daniel 12. Daniel 12. On peut lire à partir du verset 8. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et blanchis, et affinés. Donc, et les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Et depuis le temps, vous voyez. Donc, les sages comprendront. Il parle de qui? Est-ce qu'on se met dedans? Oui? Amen. Rentre dedans. Rentrons ici. Les sages comprendront. Jean 17. 8. Lisons Jean 17. 8. Jean 17, 8. Car je leur ai donné, faites bien attention ici, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. N'est-ce pas? On le croit? Ça, c'est la vérité. Amen. Pas seulement de la part du Seigneur, mais du messager de la fin. Comme Jean-Baptiste, c'est la même chose aussi. Exactement la même chose. Ainsi pour nous, c'est la même chose. Que Dieu vraiment nous bénisse. Donc, le frère Branham avait dit, parce que tant de choses ont été appelées la vérité de Dieu par des falsificateurs, beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce messager. À cause du fait qu'ils ont été trop déviés. Il y a trop de choses qui se sont passées. Manque de maturité, manque de connaissance, disons ce qu'on veut. Beaucoup se sont retirés, mais laissons à Dieu le jugement. Mais nous voulons croire que même s'il y en a qui ont malheureusement achoppé, ont été achoppés. Donc ainsi pour le frère Branham, mentionnait-il pour le frère Franck. Donc ils n'ont pas été reconnus comme ils auraient dû être reconnus. Alléluia. On a encore un petit moment ici. Un extrait des écrits de frère Franck de la lettre circulaire 49 de mai 1998. Développement du temps de la fin. Développement du temps de la fin. Après la chute de l'Union soviétique et avec elle, celle du communisme mondial n'est demeurée comme puissance mondiale reconnue de tous que le catholicisme mondial. La puissance mondiale des États-Unis est de plus en plus dépouillée de sa puissance et cela sous nos yeux. Ça, on est en train de le voir, cela. On est en train de comprendre cela. Maintenant, on est en train de voir cela très clairement. Ce qui, il y a encore quelques années, eût été impossible, est accepté aujourd'hui comme allant de soi. Au moyen d'un complot, on rend le président des États-Unis ridicule dans le monde entier. Et cela, comme le dit la voix populaire, là où le diable ne peut y arriver lui-même, il envoie une femme. C'est vrai. C'est ce qui s'est passé. Encore récemment. Mais là, on parlait des années 1998-1998. Dans ce cas-là, il y en a même plusieurs, et la presse des États-Unis caractérise l'une d'elles comme une sorcière et ennemie déclarée de Bill Clinton, qu'elle veut détruire. En ce temps-là, le temps de Bill Clinton, il y avait déjà ces choses-là. En fait, c'est l'Église catholique, on connaît tout cela. Ce qu'on peut dire, c'est que le pouvoir va être donné à toute l'Europe. On l'a déjà dit. Au Parlement, je crois que le frère, quand il arrive tous les matins, il voit, si quelqu'un va au Parlement, il voit une femme qui est sur une bête, comme il est écrit dans l'Apocalypse 17. Ils l'ont sculpté comme ça, ils l'ont imaginé comme ça, en métal, ils l'ont fait comme ça. C'est une grosse statue, énorme. Donc c'est normal que cette chose doit avoir lieu, comme ça. On peut penser, le frère continue, on peut penser de cela ce qu'on veut. Mais c'est déjà étrange quand on peut lire sur les journaux que Miss telle et telle, Madame, telle et telle, travaille aussi dans le diocèse catholique de Little Rock, Arkansas, USA. En son temps. Voilà pourquoi le frère Franck dit ce qui s'est passé à ce moment-là. USA, alors que Bill Clinton, en tant que baptiste et chrétien pratiquant, compte parmi ses amis Billy Graham et Robert Schuller. Cependant, là aussi, s'accomplit la prophétie. La superpuissance des États-Unis doit faire place à la superpuissance de l'Europe unie. C'est ainsi que cela a été annoncé d'avance. Donc, Apocalypse 17 et 3 et 13, on peut voir clairement ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qu'il y a en place, ce qui s'est mis en place. À l'époque, je me souviens, avec Bill Clinton, bon, il y en a beaucoup qui sont jeunes, mais pour ceux qui sont un peu avancés en âge comme moi, il y avait un scandale avec sa secrétaire qui raconte à tout le monde toutes ces choses-là. Donc je ne me souviens plus de son nom. Mais quoi qu'il en soit, on parle de cela. Voilà. Donc ce développement du temps de la fin. Et ensuite, on va encore reparler plus tard. Comment on a commencé. La position de l'homme et de la femme, etc. Je continue ici. Il est 9h30. Beaucoup. Non, il n'y a personne. Tout le monde est encore là. Ok. On va encore résister un moment. L'autre est un peu plus long. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons terminer ici. Alléluia. Que le Seigneur soit remercié. On ne se rend pas compte, mes amis. On ne se rend pas compte de la bénédiction que Dieu nous a donnée. De la bénédiction que Dieu nous a donnée. Parfois, les souffrances peuvent un peu annuler cette puissance de Dieu qui est venue dans nos cœurs pour illuminer nos âmes. Donc, il y a des choses qui arrivent. Donc, les douleurs de cette terre, on passe tous par là. Et surtout quand on commence à avancer dans l'âge. Il y a des maladies, il y a des difficultés, mais Dieu nous aide, par sa grâce, de rester sous le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est important, pas seulement prononcer le mot. Vous savez, le pentecôtiste, moi je me souviens, quand j'étais, je suis descendu vers la Sicile, ici la Suisse, années 90, années 90, j'ai prêché dans certaines églises pentecôtistes. Naturellement, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Il y avait des frères, il y avait Frère Nino, il y avait Kinichi, sang de Jésus, sang, le sang de Jésus. Mais il vivait vraiment, vraiment. Il prononçait cela comme une phrase normale, mais ils ont perdu la valeur de cela, alors qu'il y a une réalité divine derrière. Dans ton cœur, il y a une réalité divine. Restez caché sous le linteau et les montants des portes par le sang de Jésus-Christ et par la foi, pas par l'intelligence. Parce que si on sort de cette chose-là, c'est fini. Fini. Le destructeur, le diable, passera. Il passera. Et il nous prendra. Je dis encore ceci. Ce que frère Branham a dit, et c'est important, c'est vrai, c'est la réalité. Étant donné qu'on est fait de chair, étant donné qu'on doit encore vivre sur la terre, étant donné qu'on a des inclinaisons, on est fait de chair. Et le diable, sur cette chair, peut faire ce qu'il veut. Vous y croyez? C'est comme si ça lui appartenait. La chair, la viande, la chair. Pourquoi? On n'est pas esprit, on est chair. La chair, c'est la chair. Voilà pourquoi lui peut prendre, peut encore toucher. Voilà pourquoi. Il faut encore lui donner le moins possible la possibilité d'agir. Voilà pourquoi le Seigneur ressuscitera cette chair mortelle, comme aussi Job le disait, mes yeux le verront, mon corps le verra, les ressusciter. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce, nous fasse comprendre. Moi, j'aime bien cette parole. J'aime bien la parole. J'aime bien là où il a dit, je cherche où il a dit. J'aime bien quand il a dit qu'ils ne connaissent rien du mouvement du Saint-Esprit dans son Église et sa parole qui a lieu dans ces derniers temps. Ça, il faut comprendre. Le mouvement de l'Esprit. Dieu veut nous donner cela. Le diable veut nous donner son mouvement à travers la chair. Juste ? N'est-ce pas ? Vous y êtes ? Alléluia. Mais le Seigneur veille. Le Seigneur veille sur sa parole. Alléluia. Dieu nous bénisse, nous fasse grâce, nous aide. Les choses que nous devons faire, nous les faisons. Nous restons sobres. Le diable, c'est comme un lion rugissant qui est là. Il rugit, il fait du bruit. Et s'il fait du bruit, on dit « Oh loup, oh loup !» Alors on a peur. Ça fait peur. Mais le Seigneur nous a donné la foi de pouvoir rester, de pouvoir nous éloigner de ce que c'est une chose mauvaise. Quoi. Et vous voyez que plus loin, il y a aussi des perles précieuses et merveilleuses. Que Dieu nous bénisse tous, et jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à dimanche prochain, ce dimanche qui vient. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Je dis ça. Pourquoi est-ce que je dis ça, mes amis? On entend qu'il y a encore beaucoup de confusion. Il n'y a pas encore de clarté dans le message, dans la parole. Des choses n'ont pas été bien comprises. Il y a encore des traditions. J'entends encore des choses de l'Afrique. Il y a vraiment de la confusion. Les frères ne savent même pas ce qui est juste, ce qui est faux encore, vous voyez? Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sentent quelque chose, mais ils n'arrivent pas à placer les choses correctement. Vous voyez que c'est une grande bénédiction pour toi et pour moi, de pouvoir la placer juste quand quelque chose vient, de placer la chose correctement, et de plus avoir peur, et au contraire, de dire exactement la chose comme elle doit être, comme elle est, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse. Frère Salvatore, ça va? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Il est aussi vrai que... Tu sais que... Je me souviens que, en fait, tu allais mourir un jour. Parce que les gens t'avaient donné peu de temps au frère Salvatore. Ils t'avaient, j'avais le cerveau, la respiration, les canaux, les artères. Mais voilà. Alors le frère répond, mais j'ai un docteur personnel, c'est mon Seigneur. Il est toujours avec moi, mon Seigneur. Amen. Amen. Même si on est affligé, même si on est affligé, c'est là que le Seigneur nous parle. C'est là que le Seigneur nous parle. Le Seigneur est là, il ne nous laissera jamais, il ne va jamais nous abandonner. Croyez-moi, c'est la vérité. Il n'y a pas de souffrance que Dieu ait déjà pris. Il n'y a rien que Dieu a déjà fait. Il est écrit même que Jésus a traversé les cieux, c'est-à-dire il a été tenté en toutes choses, Jésus. En toutes choses. Tout ce qui peut nous toucher, tout ce qui peut nous arriver, il a déjà passé par là. Donc il sait compatir. Il suffit que tu ouvres la bouche. Rien qu'en pensée, même la pensée déjà. Déjà, la pensée touche Dieu, même avec des soupirs inexprimables. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Il est le victorieux de Golgotha. Amen. Que Dieu prenne dans ses mains notre vie. Je le dis de tout mon cœur. Qu'il puisse prendre votre cœur. Que Dieu prenne votre cœur toujours plus. Et il doit le prendre, lui, dans ses mains. Afin qu'il puisse le gérer, lui. La résistance doit cesser. La résistance humaine doit cesser. Et il faut laisser l'Esprit agir parmi nous, dans les cœurs. Et il faut triompher de toute maladie, de tout empêchement que le diable peut mettre dans l'Église. Amen. Seigneur, prends ma vie, prends nos vies entre tes mains. Prends, attrape nos vies. Amen. Alléluia. C'est seulement comme ça. Et le diable essaye de nous attaquer tout le temps. Que le Seigneur bénisse nos cœurs. Amen. Et qu'il se repose parmi nous. Qu'il se repose parmi nous quand on est seul, ou en compagnie, quand on prie, quand on lit. Qu'il puisse se reposer parmi nous. Alléluia. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui se sent dans son cœur de prier? Vous pouvez prier, vous pouvez remercier le Seigneur. Jubilez. Ne vous laissez pas abattre. Ouvrez votre bouche. Et je la remplirai de l'Écriture. Vous voyez? C'est comme ça que c'est écrit. Alléluia. Inclinons nos têtes. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur pour ta parole. Elle est merveilleuse. Tu es glorieux et merveilleux dans notre vie, Seigneur. Tu as accompli des merveilles. Nous-mêmes, nous nous émerveillons de ce que tu fais pour nous dans nos vies. Et nous te remercions de tout notre cœur, Père. Parce que toi, ta parole dit que même si nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle, Seigneur. Et c'est en cela que nous nous reposons. Dans lequel nous nous confions. Que toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est une chose qui est écrite dans nos cœurs. Et que rien ne pourra jamais effacer. Nous pourrons avoir des manquements, mais Seigneur, comme il a été dit, nos cœurs, nos corps sont corruptibles et chers, mais toi, tu es incorruptible, et ta parole est dans nos cœurs. Nous nous reposons en elle. Parce que Seigneur, quand nous demandons quelque chose, nous savons que tu vas nous la donner. Seigneur, nous savons que tout, malgré les difficultés, malgré, Seigneur, les souffrances, toutes choses coopèrent bien de ceux qui aiment Dieu. Et à travers les souffrances, en venant sur la terre, toi, tu as appris l'obéissance. Et ainsi, Seigneur, tu as parlé aussi pour nous. Aide-nous, augmente notre foi. Aide-nous afin que notre cœur, nos pensées, notre vie soient soumises à ta parole, Seigneur. Nous avons entendu encore ce soir ta parole. Ta parole, c'est tout. Parce qu'à travers ta parole, tu as créé le ciel et la terre. Et à travers ta parole, Seigneur, tu nous as donné des leçons. Nous pouvons reconnaître que c'est quelque chose qui est semé dans nos cœurs. Cette semence qui fait force et puissance, elle grandit parce qu'elle a été, Seigneur, édifiée sur ce rocher des siècles qui est Jésus-Christ, révélé dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, pour ton œuvre accomplie sur la croix. Nous te remercions parce que par ce sacrifice, et par la résurrection, nous avons la vie éternelle, et nous avons la communion avec toi. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ. Seigneur, ta parole est quelque chose de glorieux, quelque chose qui nous fait réjouir, parce qu'on se rend compte que nous avons affaire avec le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Mais nous, qui étions désobéissants, qui ne te connaissions pas, nous étions dans la boue, et toi tu es venu. et tu nous as fait devenir des fils de lumière. La lumière brille dans nos cœurs. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu écoutes nos prières et que chacun d'entre nous, et même ceux qui ne parlent pas, toi tu connais leurs difficultés, tu connais les besoins, tu connais chaque chose. Voilà pourquoi, Seigneur, simplement, nous te demandons de vivre dans nos vies. Nous te demandons d'éprouver nos paroles. Même dans ce qu'on ne sait pas te dire, que tu puisses trouver la louange. Dans nos cœurs, nous aimerions te louer, te servir, te louer. On aimerait vraiment, Seigneur, te servir de la façon dont toi tu nous donnes de te servir. Nous voulons te servir. Continue encore ton œuvre. Merci encore pour ce soir. Puisses-tu continuer à nous bénir en méditant ta parole. Fais que nous puissions avoir communion avec toi. Bénis mes frères, mes sœurs, bénis ton peuple. Nous te le demandons, Seigneur, et aussi pour les frères Franck, Seigneur. Nous avons entendu à travers ta parole encore ce soir. Bénis-le, Seigneur, malgré les difficultés, malgré qu'il a des difficultés à exposer ta parole, parce qu'il aimerait encore donner, Seigneur, dans ce monde, prêcher ta parole. Seigneur, continue de le bénir et donne-le. Et parle. Même à travers Internet, à travers quelques seuls moyens, continue à l'utiliser. Bénis, Seigneur, toutes choses, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous.